Bonsoir, merci d'être nombreux encore pour cette heure un peu tardive par rapport à nos deux journées de colloque. Nous avons maintenant une table ronde sur les cultural studies et les transformations de la culture visuelle. Et c'est donc Maxime Servulle, qui est l'un des organisateurs de ce magnifique colloque, qui va d'abord faire une introduction sur qu'est-ce que c'est les cultural studies, quels sont les enjeux, les enjeux, et présenter nos invités et animer le débat. Voilà, donc bonne table ronde.
Merci beaucoup. Merci Isabelle pour cette présentation qui m'invite à faire une petite intervention sans filet à l'issue de ce colloque. Je pense que plutôt que de présenter les enjeux des cultural studies à l'issue de ces deux jours de débat assez intense, assez riche, avec des interventions extrêmement généreuses, je vais simplement dire quelques mots sur cette table ronde et sur la manière dont elle s'inscrit à la fois dans une continuité avec nos deux journées de débat et la manière dont, en même temps, elle va constituer une sorte d'ouverture, une sorte d'excroissance, je dirais, par rapport à ce qu'a été la ligne de débat principale durant ce colloque. Il a été beaucoup question durant ces deux jours de circulation des concepts, de transfert d'idées, de théories voyageuses, ainsi que de traduction, voire même de non-traduction, notamment de non-traduction, je dirais, d'idées dans les pratiques. C'était notamment en partie un des points qu'a soulevé Nassira Ghanif lorsqu'elle parlait de ce qui n'advient pas aujourd'hui dans certaines des pratiques qui constituent l'université française. Nous allons parler dans cette table ronde de la circulation des idées qui ont émergé des cultural studies, de leur circulation dans le domaine de la production culturelle, et donc de l'influence qu'elles ont pu avoir, d'une certaine façon, sur différents domaines, à savoir notamment l'influence qu'elles ont pu avoir dans la redéfinition du style et de la mode, l'influence qu'elles ont pu exercer dans le domaine de la production et de la programmation télévisuelle, ou encore l'effet qu'elles ont pu susciter dans le domaine des pratiques artistiques, voire des pratiques curatoriales. Donc cette table ronde, je vous le disais, donc il y a une forme de continuité, évidemment, puisqu'on va ici envisager des types d'articulations particuliers, des types d'articulations entre la théorie et la pratique, une question évidemment qui n'est pas sans familiarité avec le champ marxiste et la question de la praxis, et une question qui a aussi beaucoup animé le centre de Birmingham. Même si, et c'est là où effectivement il y a un petit pas de côté ou une petite ouverture, il ne sera pas question dans cette table ronde de manière centrale des enjeux du marxisme. Alors, cette hypothèse d'une influence des cultural studies sur, je dirais, l'extérieur, le dehors de l'université, n'est pas si étonnante si l'on considère que le CCCS a été sans doute moins une école, même si on parle aujourd'hui de plus en plus d'école de Birmingham, mais au sens où elle était sans doute beaucoup plus qu'une école au sens pédagogique et théorique du terme, elle était sans doute plus un squat, pour reprendre le terme qu'employait Dick Hebdige pour décrire ses années au CCCS. Elle était un squat au sens où elle était un point de croisement entre différentes expériences de vie et une sorte de lieu où pouvaient s'articuler des pratiques diverses, des pratiques scientifiques évidemment, mais aussi des pratiques politiques, des pratiques artistiques de diverses natures. Donc l'idée que ce haut lieu de la vie intellectuelle et politique britannique ait pu jouer un rôle dans la redéfinition de tout un tas de champs et de pratiques artistiques me semble être une hypothèse féconde, et en tout cas c'est celle que nous allons essayer d'explorer ce soir avec nos trois invités. Donc nous entendrons tout d'abord Dorothy Hobson, qui est spécialiste de l'histoire culturelle, en particulier de l'histoire de la télévision. Dorothy Hobson a été étudiante au CCCS entre 1975 et 1981, et elle a réalisé au centre de Birmingham sa thèse de doctorat, qui a été publiée sous le titre « Crossroads, the drama of a soap opera », un ouvrage qui est devenu très rapidement l'un des ouvrages majeurs des cultural studies britanniques et qui continue aujourd'hui à être une référence dans ce domaine. Elle a aussi publié un second ouvrage sur le soap opera en 2003 et puis un livre sur l'histoire de la chaîne de télévision Channel 4 qui s'appelle Channel 4, The Early Years and the Jeremy Isaacs Legacy. Et enfin, elle a co-dirigé avec Stuart Hall, Andrew Lowe et Paul Willis la publication de l'anthologie des Working Papers du Centre de Birmingham qui s'intitule Culture, Media and Language. Nous entendrons dans un deuxième temps Sophie Orlando, qui est historienne de l'art, professeure à l'École nationale supérieure La Villa Arson à Nice et chercheur au sein du laboratoire Black Artists and Modernism, qui est un laboratoire qui appartient à l'University of Arts London. Sophie Orlando est spécialiste des arts britanniques à la période contemporaine. Elle a publié de nombreux articles, notamment sur le British Black Art, et elle publiera d'ailleurs à la rentrée un ouvrage qui s'intitule « British Black Art, Debate on Western Art History ». Elle a dirigé récemment une exposition des travaux de l'artiste Sonia Boyce, dont elle nous parlera, je crois, et elle dirige une monographie de cet artiste qui paraîtra en 2017. Enfin, nous entendrons Nick Rhys Roberts, qui est maître de conférence en Media and Cultural Studies à l'Université de Bristol, mais mon petit doigt me dit qu'il sera à la rentrée prochaine professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle. Ses recherches actuelles portent sur la mode et sur l'intermédialité, notamment sur les relations entre mode, cinéma et communication numérique. Il va d'ailleurs publier en 2017 un ouvrage à ce sujet qui s'intitule Fashion Film, Art Advertising Documentary. Et il a aussi travaillé sur les représentations du genre, de la sexualité, de la race et de la classe, en particulier dans le cinéma gay et queer, alors au travers d'un ouvrage qui s'appelle French Queer Cinema, et puis dans un livre que j'ai eu le plaisir d'écrire avec lui, qui s'appelle Homo Exoticus, Race, Classe et Critique Queer. Et je donne sans plus tarder la parole à Dorothy Hobson.
Bonsoir.
Il n'y aura pas d'autres mots en français, bon. D'abord, j'aimerais remercier de Maxime et Isabelle pour cette invitation à parler et de m'avoir aidé pendant tout ce voyage. Et merci à tous les autres. Je voulais juste revenir un peu sur ce qu'a dit Maxime sur ma biographie. Je vais vous en dire un tout petit peu sur mon cheminement dans les cultural studies. J'ai étudié l'anglais à Birmingham entre 72 et 75. Souvenez-vous que Hogarth a été professeur d'anglais là-bas. Donc ce département, bien qu'il fût très traditionnel, mais il fallait passer l'examen d'anglo, en littérature anglo-saxonne, quoi. Et en même temps, ça a ouvert sur les cultural studies. Donc il y avait des cours, les cultural studies contemporaines, un autre cours qui s'appelait approche critique de la littérature, qui avait tous les théoriciens critiques qui, bon, donnaient ce cours et faisaient partie de ce cours. Donc déjà, ce département d'anglais était vraiment un fondement d'une approche très moderne de la littérature, notamment à cette époque. Je me suis ensuite rendu au CCCS en 75, enfin, pour faire un MA, un master, pour ma thèse, qui était une étude parallèle de l'ouvrage de Paul Willis, Learning to Labor. Mon travail sur les ouvrières, les jeunes ouvrières, comment elles passaient à l'état de maternité, quoi. Et un petit aspect de cette recherche, c'est que ces très jeunes filles, souvent jeunes femmes, 16, 17, 18, 19 ans, qui parlaient de l'importance de la télévision et de la radio dans leur vie. Et elles identifiaient aussi pourquoi, quels programmes elles aimaient, les soap operas, les documentaires sur la famille, et les drames. Et elles voyaient ça comme... Ce qu'elles y reconnaissaient, c'était des thèmes qui étaient importants à leurs yeux. Elles ne les regardaient pas dans la mesure où elles sentaient qu'elles se sentaient sans armes. Les documentaires parlaient de la mort, la famille, et elles avaient l'impression que rien ne changeait. Même chose dans les informations télévisées. Donc, elles ne voulaient pas regarder ce genre de programme. Et ça explique, enfin, ça a donné un petit chapitre de Housewives and the Mass Media qui vient d'être republié en temps de volume. Parce que c'est la première fois que cette identification par un public de ce qu'elles aimaient, de ce qu'elles n'aimaient pas. Et puis par la suite, j'ai continué ma carrière en faisant de la recherche pour ma thèse, donc, qui concerne la production télévisuelle et le public. Et ces deux diplômes, j'avais beaucoup de chance que Stuart s'occupait de moi, c'était lui qui me dirigeait. Il m'a fait beaucoup de soutien. Je regardais les femmes en particulier comme l'objet de ma recherche. Et il m'a beaucoup soutenu et était très intéressé par ce que je faisais. Une toute petite part de cette recherche, et c'est comme ça que... qu'il y a des coïncidences, mais on ne peut jamais vraiment planifier les choses. Une toute petite partie de cette recherche, c'était regarder les soap opéras britanniques, Crossroads. Dans la plupart de cette recherche, le directeur de la télévision, c'est lui qui mettait en l'air les artistes, les comédiens de la série. Bon, c'était un vendredi après-midi, et le lundi, on leur disait, allez dans... Rendez-vous dans un département, parce que vous avez tout appris, que c'est plus la peine d'aller plus loin. Donc ça m'a aidé à écrire ce bouquin sur Crossroads. Mais avant ça même, quelqu'un que je connaissais dans la production télévisuelle, que j'avais interviewé à propos de ce programme, était un ami du directeur du Times, avant Murdoch, hein, avant que Murdoch n'intervienne. Cette personne m'a dit, tu pourrais écrire quelque chose d'incroyable sur ce qui ne va pas dans cette émission Crossroads. Et j'ai écrit ça, et le jour d'après, dans la réunion éditoriale, il a fallu qu'il dise qui il avait commissionné pour écrire cet article dans le Times. J'ai choisi donc cette femme qui vient de Birmingham sur Crossroads, et il a dit, dans le meeting, les gens ont dit, c'est où Birmingham? C'est quoi Crossroads? Et c'est quoi une femme? Voilà, c'est trois choses. Ça, c'était le niveau. Et lui disait, je priais que tu aurais cet espace. Et c'était avant. Et tout ça a donné naissance à ma recherche. Donc c'était vraiment, jamais mon intention, c'était juste une petite part de ma recherche. Et ça, c'est quelque chose qui a été évoqué hier. Souvent, on avait publié avant même de finir notre recherche. Et donc, on faisait autre chose après. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'ouvrage sur Crossroads, en juillet 82, et la femme qui était à la tête de la recherche à Channel 4 m'a demandé si je ferais une recherche sur eux. Et ça, c'était un rêve qui n'aurait jamais lieu aujourd'hui, évidemment. Donc, ils m'ont payé pour le temps que j'ai passé dedans. Ils ne sont pas du tout immiscés dans mon travail. Ils m'ont payé un salaire pour faire de la recherche, et faire la recherche que je voulais faire. Donc je voulais utiliser ma méthode. Il s'agissait de parler au producteur, regarder la production et parler au public. Et c'est comme ça que ça s'est passé. D'abord, c'était 3 ans. Finalement, ça s'est fait en 7 ans, parce que c'était long, bon. Et j'ai tout un loft rempli d'archives suffisantes pour 20 archivistes pour faire 50 000 thèses. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé, finalement, pour moi. Voilà la généalogie de ce dont je vais parler aujourd'hui. Au sein du CCCS, il y avait une des sessions, c'était dialogue externe, une session dialogue externe. Et donc, il parlait du rôle des interactions du CCS avec le monde extérieur. Donc maintenant, je vais revenir à ce que j'ai écrit. Je vais être warned. This is perfect, thank you. Donc j'appelais ça « Cultural Studies et la production télévisuelle des moments de conjoncture ». Donc, en 1982, la Grande-Bretagne avait une nouvelle chaîne télévisuelle, Channel 4 Television. Et j'aimerais vous parler ce soir des liens, des connexions entre Channel 4 et les théories, et les influences du CCCS et des Cultural Studies. J'ai appelé cette connexion de la formation de la chaîne et de sa relation au travail du CCCS la rencontre d'esprit, une rencontre d'esprit, un moment partagé d'histoire ou dans les mots de Raymond Williams, une structure de sentiment, structure of feeling. Je vais essayer de vous montrer comment les développements dans la culture et notamment ceux qui avaient lieu au CCCS ont pu avoir une influence sur la scène audiovisuelle qui était en pleine mutation. Avant ça, je vais vous dire ça très brièvement, mais ne vous inquiétez pas, je vais juste vous expliquer ce qui s'était passé avant Channel 4. La télévision principale, c'était BBC 1, la BBC 1, qui était diffusée donc à Londres à partir du 2 novembre 1936. Elle fut suspendue le 1er septembre 1939, au début évidemment de la Deuxième Guerre mondiale. On pensait que la radio était un meilleur médium pour servir les intérêts nationaux. La BBC rouvrit en juin 1946, mais toujours uniquement dans la région de Londres. Et ce n'est qu'en 1952 que le service fut diffusé dans l'ensemble du territoire britannique. En 1955, ITV commença à diffuser à Londres, là aussi. Et en 1962, toutes les sociétés de ITV, plus tard, purent diffuser dans l'ensemble du pays. Donc, la Grande-Bretagne avait au début des années 60 un service public et des chaînes de télé qui étaient financées de façon privée. En 64, la BBC. En 64, on accorda une seconde chaîne à la BBC. La BBC 2 fut lancée immédiatement. Et donc, ITV commença à faire du lobbying pour avoir elle aussi une deuxième chaîne. Et donc, c'était la longue route vers le lancement de Channel 4. Donc, le CCCS fut créé au même moment de ce lobbying. En 18 ans, les changements dans l'environnement culturel et médiatique nourrirent la création de cette nouvelle chaîne, Channel 4. Donc, l'histoire de la diffusion et des changements culturels est longue. Pour réduire ça à quelques phrases, je dirais ceci, quoi. Le CCCS fut établi en 1964. Bon. Et l'idée de Channel 4 commença aussi à cette époque. Bon, Channel 4 n'avait pas encore ce nom. Hein. Il y avait beaucoup de débats sur la forme que ça prendrait. Hein. À quoi devrait ressembler cette chaîne. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y avait une instabilité gouvernementale. Il y avait d'abord le Labour, et puis après, c'est les conservateurs qui ont le pouvoir. Donc, je pourrais évidemment On prendra le plus tard, mais bon. Le débat, c'était sur est-ce qu'il fallait appeler cette chaîne ITV2 ou Open Access, accès ouvert. Donc, elle aurait son propre caractère, finalement, mais les débats et le cheminement que ça prendrait furent influencés par les changements culturels qui se déployaient à l'époque pendant ces 20 ans de gestation de la chaîne. Pendant la recherche pour mon ouvrage sur l'histoire des premières années de Channel 4, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec beaucoup de dirigeants d'ITV. Et il s'agissait notamment de Sir Dennis Foreman, qui s'occupait de Granada Television et qui était un des membres importants de la hiérarchie de ITV, qui en savait beaucoup sur l'information de Channel 4, les forces, les factions qui avaient été impliquées dans son établissement, dans sa naissance. Et après tous ces entretiens, je trouvais que lui, il avait très bien exprimé cette lutte pour le contrôle de la nouvelle chaîne avant qu'elle avait été créée. La décision de qui devrait contrôler la chaîne entre ITV, eux, ils voulaient que ce soit la vente d'espace publicitaire. C'était ça le but de cette chaîne. Et l'idée de l'open access, bon, tout ça fut résolu par le fait que ITV, le corps de régulation indépendant de l'ITV, s'occupa de gérer l'ITV et qui était payé par la compagnie ITV. Mais au-delà de ça, il y avait un lobbying important autour de cette chaîne. Et donc, Sir Dennis Foreman l'a exprimé de façon très claire. Maintenant, pour parler de l'autre extrémité, de l'autre polarisation, il y avait un groupe de gens. Je crois qu'il est surtout à gauche, hein. Bon, surtout à gauche, les intellectuels plutôt que la gauche politique. Ouais. Donc c'était des gens assez vagues, un gros groupe de gens qui ont formé le concept d'une maison d'édition libre, ouverte, plutôt que la façon dont Roland avait opéré sa radio et sa télévision. N'importe qui, citoyen, a le droit de diffuser. C'était ça l'idée derrière cette chaîne. Ça, c'était le background, si vous voulez. Hein. En tout cas, la chaîne fut donnée à la télévision indépendante et les sociétés durent payer un impôt sur leur revenu publicitaire qu'ils cherchèrent à enlever en vendant de l'espace publicitaire dans leur région. Influence donc. Bref, le staff qui vend la publicité, eux, c'est eux les gens au centre de l'attention. C'est eux qui jouent un rôle important. Parce qu'eux, ils vendent. ITV n'existe que grâce à la vente d'espaces publicitaires. Donc, ces gens, ils étaient habitués à vendre à qui que ce soit, à n'importe qui. 17, 19 millions de public. Après, ce qu'ils devaient faire, c'était faire en sorte que les gens achètent de l'espace publicitaire où ils auraient peut-être 200 000 un public de 200 000 personnes, et ça c'était très peu, quoi. C'était vraiment très peu pour eux, quoi. Et donc Sir Dennis Howard leur a appris le métier de vente de l'espace publicitaire dans le développement de Channel 4. Donc il y avait ce conflit, hein. Ils devaient vendre l'espace, mais c'était payé. Les profits commerciaux devaient payer pour la nouvelle chaîne qui avait toutes les intentions d'être une chaîne culturellement différente. Donc ça, c'était déjà un concept, un conflit intéressant, si vous voulez. L'influence de ceux qui soutenaient l'Open Access et du Broadcasting Act de 1982 qui donnait naissance à Channel 4 furent aussi influencés par l'idée que les changements culturels les idées, les changements culturels qui allaient intervenir dans les années qui suivaient. La nouvelle chaîne ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Elle devait servir un nouveau public, servir les minorités, être distincte. Et le Broadcasting Act, donc cette loi de 82, affirmait aussi qu'il fallait encourager l'innovation et l'expérimentation dans les formes et les contenus des programmes. Et plus généralement, d'offrir à la quatrième chaîne un caractère distinct, bien à elle. Donc la création de Channel 4 signifie un moment où des idées politiques pour étendre l'accès au public au sein de la télévision britannique finalement fut née. Donc, contrairement à ce qui se passait au CCCS, il y avait aussi la croyance dans quelque chose de possible, de neuf. Et ça, c'est la philosophie importante qui nourrit cette chaîne. Ce que moi, je crois, et ce qu'on peut voir dans les années 80, c'est le développement de deux institutions créatives qui partageaient un moment artistique et culturel. Les deux vinrent de débats et de croyances des années 60. Et leur existence, dans les années 80, fut une preuve que de telles influences et de tels changements pouvaient exister, avoir lieu, l'être, etc. Donc les idées, la pression derrière l'essence de Channel 4 et le développement et les développements intellectuels et politiques qui venaient du CCCS étaient fondés sur des croyances pour augmenter l'accès de toutes les manières générales possibles, d'ouvrir à la célébration de la vie quotidienne. Cette idée pouvait être appliquée à la recherche et adoptée par le CCCS. La culture de classe, le football, la musique populaire, la culture du lieu de travail, la culture jeune, les ménagères, les médias de masse et les questions qui émergeaient, le féminisme et de race. 20 ans plus tard, Channel 4 décida d'offrir une télévision qui était différente, innovante, en choisissant d'offrir des programmes qui étaient dirigés vers les jeunes, les noirs, les asiatiques, les femmes, de la formation alternative, les arts, la culture, sous plein de facettes différentes. Et ils ont choisi de nouveaux espaces qui avaient émergé dans l'environnement culturel des 20 dernières années. Donc maintenant, je continue sur mon propre engagement au sein du CCS et à Channel 4. À la fin des années 70 et dans les années 80, quand j'étais en thèse, j'analysais et j'ajoutais l'ethnographie vis-à-vis des publics, mais aussi donc de tous les intermédiaires de la production. Je parlais avec le management de la chaîne, le staff de production. Et il y avait une conscience du CCCS dans cette industrie de la diffusion télé. Donc les diffuseurs comprenaient bien plus le CCS que finalement d'autres universitaires. Donc avant de parler de Channel 4 dans les années 80, je veux juste vous parler d'autres diffuseurs qui eux aussi avaient été influencés. Donc il y avait des petites poches comme ça dans les sociétés qui s'intéressaient à ce genre de travail. À la fin des années 70, j'ai donc été dans plein d'organisations de diffusion, notamment la BBC et puis des sociétés de ITV. Et chaque société, il y avait des individus, mais aussi des managers de la production qui connaissaient les théories des cultural studies. Les travaux, les écrits ou les cours à l'Open University, parce qu'à l'époque, Stuart avait migré là-bas et avait développé des cours là-bas. Et je me rappelle même que le chef opérateur de la comédie Butterflies, de Carlin, qui est morte récemment, s'intéressa donc aux théories de l'Open University où lui-même étudiait quoi. Lui comme d'autres était conscient des théories culturelles de gauche et que celles-ci devraient faire partie de leur propre éducation culturelle et intellectuelle et leur développement. Donc le travail du centre à l'Open University, le travail de Stuart, etc. avait un impact, même petit, même minime, sur des individus au sein de l'industrie de la télévision. Il y avait des programmes qui étaient affectés dans d'autres institutions de diffusion. Donc LWT, par exemple, avait Weekend World, un programme à la fin des années 70 qui était lui aussi, qui s'intéressait à la question politique et culturelle, et qui avait des experts et des participants de gauche, et qui avait une certaine culture. Moi, j'étais même là, je me rappelle, quand ils ont interviewé E.P. Thompson, par exemple, l'auteur de la formation de la culture ouvrière britannique, par exemple. Et lorsque, dans le meeting de planning pour cet entretien, il était évident que l'équipe de production était tout à fait au fait de son travail. Un petit... voilà, si vous avez déjà vu E.P. Thompson... ses mains gesticulent beaucoup. Ça voulait dire qu'il ne pouvait pas monter son entretien. Il ne pouvait pas faire un montage parce que il gesticulait trop. Donc il fallait montrer l'ensemble de l'entretien parce que il gesticulait trop pour faire un montage. Donc c'est bien de gesticuler quand on est en faire un entretien pour la télévision. À une échelle plus populaire. Il y avait un autre programme qui s'appelait Afternoon Plus, qui lui aussi s'intéressait à des thématiques à partir de la perspective des femmes, par exemple. Par exemple, Catherine Freeman, qui était la chef de l'équipe de production, eh bien, elle m'a permis de comprendre qu'il y avait un changement culturel et politique, que tout ça faisait partie de, justement, ce monde de la production audiovisuelle. Enfin, il y avait la comédie BBC The Young Ones, Les Jeunes, qui fut lancée en 82 et qui fut lancée en même temps que le genre de la comédie alternative, si vous voulez, avec Channel 4. C'est ça qui a un peu lancé ce genre de la comédie alternative, des comédies alternatives. Donc c'est l'histoire de quatre colocataires qui vivaient dans un chaos total. Et la série incluait des normes culturelles, la rupture de normes culturelles officielles. Bon. Et puis une comédie un peu anarchique, du comique anarchique, et puis tout ça avec l'apparition d'un groupe de rock live qui arrivait au milieu de la chambre, au milieu de la série, des choses un peu anarchiques comme ça. Ça s'était développé dans le Comedy Club de Londres, puis ensuite finalement développé comme série britannique. Quoi. C'est un exemple d'un type de comédie qui commençait à apparaître sur la BBC 2 et sur Channel 4, et qui est vraiment nourri dans les années 80. Et je sais que les producteurs de The Young Ones, ses producteurs ont dit que ce scénario, ça faisait longtemps qu'il avait, enfin bon, disons 2 ans quoi, mais lorsque Channel 4 a commencé à faire dans le comique, les BBC, les managers de la BBC dit on va faire les Young Ones, personne ne pigeait de quoi il s'agissait, mais bon, vous voyez, ce dont vous aviez besoin à l'époque, c'était des individus qui étaient des champions, si vous voulez, de ce qui se passait à un niveau. La production, par exemple, il y avait aussi les dirigeants qui permettaient à ces choses d'arriver. Donc ma propre recherche auparavant, avant le travail de Channel 4, m'avait permis de passer du temps avec ces organisations de diffusion. Et j'avais la chance d'étudier leur production, de parler librement avec eux, avec le staff. Et c'était clair à mes yeux que si j'ai été accueilli aussi sympathiquement, ce qui était assez rare à l'époque, c'est parce que j'avais travaillé sur les publics. J'avais parlé à de nombreuses conférences sur les opinions de personnes, de différents programmes, et ça devint assez clair que les gens de la production étaient intéressés par mon ethnographie et par la question des publics, parce que ça leur permettait d'avoir du feedback, des retours sur leur travail. À l'époque, c'était assez innovant. Et ça venait justement du travail du centre, de ce que je faisais à l'époque. Oui. Donc maintenant, je vais vraiment très brièvement parler de Channel 4, plus spécifiquement. et du rôle que j'avais là-bas et comment j'ai vu leur relation au cultural studies et tout ça. La première fois que je suis allé à Channel 4, c'était pour voir un meeting de révision et d'analyse d'un programme. Ça pouvait être une expérience extrêmement traumatisante pour un ethnographe comme moi. C'est Sue Stossel, qui est chef de la recherche, qui était la recherche, qui voulait que j'étudie la chaîne qui avait été rencontrée par Jeremy Isaacs et lui-même. Si vous voulez, enfin, la similarité entre Jeremy Isaacs et Stuart Hall, il y en avait plein. Stuart était quelqu'un qui permettait. Jeremy, lui aussi, permettait beaucoup de choses. C'était tous les deux gens qui permettaient aux gens de faire ce qu'ils voulaient, quoi. De toute façon, je suis allé à cette réunion très nerveuse, pour être vraiment honnête. You can speed up if you want. It's fine. You can speed up, of course. Yeah, yeah. Donc la rencontre, cette rencontre était presque comme une ouverture du CCCS. Ils savaient que c'était le travail du centre. Ils savaient que c'était le travail de Stuart. Ils savaient aussi que c'était le travail sur les cultures jeunes, les women's studies, mon propre travail. Les débats, dans ces commissions, dans ces révisions de programmes, etc., étaient vus à partir d'une perspective intellectuelle. Et une idée philosophique derrière le programme était importante dans les débats sur les diffusions. Donc, le public, il y avait peu de monde, 250 000 à 500 000 personnes. Bon, c'était pas beaucoup par rapport à d'autres chaînes télévisuelles. Alors que l'autre, évidemment, on avait 12 à 80 millions, à 18 millions, pardon. Donc, c'était une question de chiffres, quoi. Donc, ils ne parlaient pas des chiffres, parce que c'était pas tellement le critère, le public. Leur critère, c'était comment orchestrer tout ça d'un point de vue culturel. Et donc, le rôle du CCCS était important, les convictions importantes qui étaient prévalentes dans les débats. Comme dans le CCCS, l'engagement politique faisait partie des pensées de ceux qui travaillaient dans la chaîne. Toutes les idées dans Channel 4 menaient également le CCCS. La responsabilité collective, par exemple. Dans les programmes, à l'échelle de la chaîne, la question des contenus et la collectivité du travail, ça faisait écho à ce qui se passait au CCCS. Donc, dans ces débats, il y avait des débats forts. Il y avait beaucoup de colère, parfois même des larmes. Des batailles constantes d'idées, de positions. Tous ces gens avaient des backgrounds différents. Certains étaient des professionnels de la télévision, certains n'avaient aucune expérience à la télévision. Ils étaient aussi sélectionnés pour plein de qualités qu'ils avaient et qui permettraient à Jeremy Isaacs de créer la chaîne que lui, il voulait. Alors, je saute un peu. Donc, les zones de programme créées par Jeremy Isaacs étaient fiction, éducation, jeunesse, cinéma, documentaire, entertainment un peu light, disons, qu'ils n'ont jamais vraiment développé, les arts, les documentaires sur les arts, médias, sport, musique, religion, des programmes multiculturels. Donc vous voyez, tous ces programmes devaient aussi adopter des idées d'innovation, de changement culturel. Les liens entre le changement culturel firent partie du monde de la production télévisuelle et c'était très clair, tacite. Donc ça a ouvert les vannes pour des producteurs indépendants, par exemple. Je ne vais pas les mentionner spécifiquement. Mais ils ont eu les premiers programmes noirs, par exemple. Ils avaient... J'ai interviewé Dark Sao, qui était l'éditeur d'un grand programme qui m'a dit: Jeremy m'a permis de devenir une personne de Channel 4. J'aurais jamais pu rêver d'être, d'avoir 1000 pieds dans Channel 4. Puis un dernier programme dont je vais simplement vous parler, c'était After Dark, après la tombée de la nuit, qui passait à la fin de la soirée et qui était vraiment très avant-gardiste. Et ça durait aussi longtemps que les débats se poursuivaient. C'était des groupes de chercheurs, d'intellectuels et des experts, des gens qui avaient la connaissance sur des sujets hebdomadaires, sur plein de sujets différents. Une de mes collègues, Paul Willis, a dit « J'adore ce programme. Tu rentres du pub, tu l'allumes et tu commences à te dire qu'il faudra qu'un jour, il faudra que toi aussi tu contribues au débat. Puis après, tu te rappelles que c'est sur Channel 4 et que c'est que à la télé. Et tu t'arrêtes juste pour l'apprécier, alors qu'au début, tu disais « Mince, il va falloir que j'intervienne. » Non, non, en fait, tu pouvais juste te contenter de le regarder à la télé. Ça, c'est un bel exemple de la proximité du CCCS au projet de Channel 4. Je veux juste finir avec une dernière idée. C'est assez surprenant pour parler un peu politique. C'est un exemple surprenant de la puissance du contexte intellectuel de Channel 4 qui a ouvert de nouveaux concepts de production, qui a permis la création de plein de petites sociétés de production. Donc la pensée culturelle, intellectuelle, s'est diffusée dans Channel 4. Et tout ça, c'était plutôt alternatif et de gauche. Hein. Et c'est-à-dire surprenant de voir ça dans Channel 4. Donc il y avait vraiment le côté libertaire des années 60, une gestation longue qui a permis à tout ça d'exister au début de l'ère Thatcher et du conservatisme thatcherien. Ces programmes étaient vraiment provocants d'un point de vue politique. Néanmoins, Channel 4 avait son propre soutien dans M. Whitelaw, qui était un conservateur qui a convaincu Mme Thatcher de créer de centaines de petites maisons de production qu'elle pourrait justifier comme un fruit de sa politique économique. Vous voyez, donc, en fait, non, c'était pas du tout grâce à Thatcher, tout ça. C'est les petits qui sont devenus les gros, ce qui a permis à Thatcher de s'approprier et de tirer les marrons du feu, si vous voulez. Donc lorsqu'il cessa d'être secrétaire, Home Secretary, lui, il prit acte de cette législation, c'est lui qui avait dirigé cette législation. Et donc la création de Channel 4 fut un moment unique. Et donc toute cette histoire permet de montrer l'influence du CCCS. Et permet de défier toutes les critiques qui venaient un peu de gauche à droite. Donc ce qui croyait être des changements dans la représentation, en fait, bon, eurent vraiment un écho dans cette télévision. Est-ce qu'on est bien conscient de la signification des changements culturels? Est-ce qu'on se rend compte que quelque chose se passe avant que ça se soit passé? Dans le futur, néanmoins, la rencontre de changements culturels et de pensée développée par le CCCS a bien eu un effet qui s'est manifesté dans la création de Channel 4. Et les idées partagées, les aspirations partagées sont agrégées dans ce moment de créativité, de conjoncture créative.
C'est tout.
Thank you very much, Dorothy. Je vais maintenant passer la parole à Sophie Orlando.
Peut-être un tout petit mini préambule. Bon, tout d'abord, merci pour cette invitation, Maxime et Isabelle. Je suis ravie d'être là aussi dans cette institution qui est le Centre Pompidou. Et j'aimerais rappeler que l'histoire de l'art, la discipline de l'histoire de l'art, était plutôt résistante aux cultural studies en France pendant très longtemps. Et donc c'est important qu'une institution comme le Centre Pompidou accueille une pensée aussi, donc des cultural studies, mais qui puisse s'appliquer au récit de l'art. Autre petit point, mon goût pour les cultural studies vient d'un moment, 2005, où, cherchant une position située et ne trouvant pas des outils adaptée. En tout cas, je ne trouvais pas mon confort dans l'académie, dans l'université française. Je suis partie à Londres et j'ai rencontré les British Black Artists. Et des British Black Artists, j'ai rencontré tout un champ de pensée qui m'a passionnée. Et premier rendez-vous sur le Black Arts, on m'a raconté l'histoire des années 80, la révolte des Dance First aussi en 85, etc. Donc voici, voici d'où je parle, si vous voulez. Donc beaucoup d'artistes associés au Black Art ont reconnu, ont montré leur connexion avec le CCCS et avec des figures importantes comme Stuart Hall, Paul Gilroy, mais aussi Hazel Carby ou Pratibha Parmar. Toutefois, c'est vraiment la figure de Stuart Hall qui s'impose comme figure tutélaire, comme modèle déployé à partir d'un lieu d'énonciation caribéen. Et c'est ce lieu d'énonciation qui a poussé, encouragé nombreux artistes à tenir également une position black au sein du champ de l'art en Grande-Bretagne. Sachant que Stuart Hall a d'abord été reconnu pour ses écrits politiques, et donc acteur, moteur de la New Left. Le mouvement du British Black Art a commencé véritablement en 82, à la suite d'un grand colloque, un symposium appelé The First National Black Art Convention en 82, donc organisé par un premier collectif artistique qui s'appelait The Pan-African Connection. Et vous le voyez, ça a donné lieu à une prolification de collectifs artistiques. L'objectif de ce colloque était de réfléchir, rassembler des artistes qui seraient unis par ce terme « black » comme lieu d'énonciation commun, comme lieu politique d'énonciation, une expérience commune, migratoire, liée aux décolonisations du Commonwealth. Or, pour Stuart Hall, le terme « black » est inclusif et donc ne caractérise pas du tout une couleur de peau, mais donc réunit les communautés, quelles que soient les origines raciales ou ethniques, en Grande-Bretagne. Et c'est donc ce terme qui va vraiment lier au départ l'intérêt entre Stuart Hall et les artistes du British Black Art. Donc cet usage commun est un premier point, mais si on veut aller plus loin, eh bien, il faut interroger un petit peu la nature de ces liens entre Stuart Hall et les British Black Artists. Dans cette présentation aujourd'hui, je vais évoquer quelques points très parcellaires de cette question très vaste. Je vais vous parler des liens entretenus entre Stuart Hall et le black cinéma et la photographie. Les liens entre Stuart Hall et l'écriture du récit de l'art, autre point très important. Et enfin, j'essaierai d'aborder très brièvement les limites ou les tensions entre Stuart Hall et le British Black Art du point de vue des Black Women Artists. Donc, je vous le disais, les liens les plus visibles, les plus forts, commencent par ces rencontres entre plusieurs membres du CCCS et le champ des Black Films, films et vidéos, qui, dans les années 80, souhaitent interroger les théories critiques au sein du cinéma expérimental afin de déconstruire les stéréotypes de l'inconscient collectif. Ils souhaitent aussi se dégager du Black Power Movement. Il y a deux collectifs très importants qui vont être très proches de Stuart Hall. C'est le Black Audio Film Collective, ça a déjà été dit tout à l'heure par Jackie Stacey. Et puis, il y a le Black Audio Film Collective et puis le Sankofa Film Collective, qui est plutôt lié aux questions de la Black Feminist Theory and Queer Theory. Sachant que Stuart Hall, dès les années 60, s'intéressait au cinéma, puisqu'il avait participé à l'élaboration du champ des film studies. En fait, il souhaitait qu'il y ait un programme éducatif spécifique, un champ des film studies. Donc, lors de la préparation, la réflexion sur ce film, Into a Song, les membres du Black Audio Film Collective souhaitent faire venir Paul Gilroy pour discuter du livre qui était sorti quelques années auparavant, qui s'appelle The Empire Writes Back. Donc cette discussion a permis la nourriture intellectuelle de ce film, And So Songs. Cette relation s'intensifie lors de l'organisation d'un autre colloque dirigé par Kubina Mercer, affilié en fait, il n'était pas membre du CCS, mais était dans le champ des Cultural Studies, et il était sociologue et puis devenu spécialiste des représentations des masculinités au sein d'œuvres d'artistes diasporiques, d'abord britanniques puis américains. Donc c'est au cœur de ce colloque, Black Film British Cinema, que Stuart Hall prononce son texte très connu, donc New Ethnicities. Dans ce texte, Stuart Hall parle de la manière dont les black artistes et les travailleurs du champ culturel rencontrent désormais le post-structuralisme, le postmodernisme, la psychanalyse et le féminisme. Et je reviendrai sur ce point. Il dit également comment « the new politics of representation has to do with an awareness of the black experience as a diaspora experience and the consequence which this carries for the process of unsettling, recombination, hybridization, and cut and mix. In short, the process of cultural diasporization which it implies. » Donc c'est vraiment cette double articulation que va travailler Stratol avec le champ des film studies dans les années qui vont suivre. Donc il prend dans cet article, pour exemple, les films donc, du Black Audio Film Collective. Donc il n'y a pas celui-ci, je l'ai mis simplement en référence. Ce film The Passion of Remembrance, ou encore le film réalisé par Stephen Frears, My Beautiful Laundrette, qui est le résultat hérité du livre d'Anif Qureshi en 85. Donc je passe un peu vite sur ce point, puisque ça a déjà été évoqué dans la conférence de Jackie Stassé tout à l'heure. Je reviens aussi sur le fait que John Aconfra va entériner ce lien très fort par une double production. Tout d'abord, The Infinite Conversation en 2013, et puis The Stuart Hall Project. Donc là aussi, ça a été discuté. Je ne reviens pas là-dessus, mais peut-être clarifier aussi le rôle institutionnel qu'a tenu Stuart Hall vis-à-vis de ces deux, du champ des film studies et de la photographie, puisque il a été chair de Autograph, donc une des associations des Black Photographers qui s'ouvre en 88, et puis chair aussi de l'institution culturelle d'exposition avec une bibliothèque dédiée aux Black artistes qui s'appelle l'INIVA, Institute of International Visual Art, qui ouvre en 94. Donc Stuart Hall avait vraiment une implication intellectuelle, mais aussi une implication institutionnelle dans la fin des années 80. Dans ces deux champs. Le second lieu très fort, je vous le disais, c'est la photographie. Stuart Hall ouvre le Autograph en 88, et puis il va écrire dans deux ouvrages importants. Tout d'abord, la revue 10-8, avec un numéro dédié aux Black Photographers, qu'il dirige avec David Ebele, un des grands principaux photographes black en Grande-Bretagne, et puis un autre ouvrage avec Mark Seely, Different, en 2001. La manière dont Stuart Hall lit la photographie est assez proche de la manière dont il lit le cinéma. Dans cette revue 10-8, Critical Decade, il publie un texte avec David Ebele qui s'appelle « The Vertigo of Displacements » où il explique le passage, selon lui, entre une génération de photographes qui s'intéressent au réalisme, la photographie réaliste, à une génération de photographes qui va utiliser des formes beaucoup plus expressionnistes pour parler des identités black décentrées. Donc, quelques exemples. Il passe donc par exemple, de cette génération d'artistes qui ont été Ahmed Francis ou Van Leeuwenhoek, donc sur des représentations des populations noires en Grande-Bretagne, à une analyse des travaux, par exemple, de Ronnie Fanny Kayode. Donc les deux auteurs, David Ebele et Stuart Hall, parleront de, notamment de cette opposition aussi entre la photographie de Rotimi Fanny Kayode, qui passe par des références issues de différentes traditions figuratives, spirituelles, sociales, donc il vient puiser dans un ensemble de références, avec une photographie de Robert Mapplethorpe. Donc je pense là à cette photographie de Ken Moody et Robert Chapman, une photographie de 84. Bon, je n'ai pas le droit de vous la montrer, donc je vous l'explique. Donc une photographie de 84 sur laquelle on voit donc Ken Moody, prof de stretching, donc corps black, et Robert Chapman, corps blanc, juxtaposés l'un à côté de l'autre, deux profils, une sorte de yin yang en fait très esthétisé et pas du tout avec une pensée à la fois de l'héritage des traditions de représentation, de l'héritage de traditions sociales, mais vraiment une pensée purement esthétique, érotisée des corps. Donc on peut dire que pour Stuart Hall, les artistes qui travaillent le film et la photographie constituent un véritable terrain d'observation ou un laboratoire qui lui permettait de continuer à lire, à lire son Gramsci tout en essayant de comprendre quels étaient les enjeux de la génération des années 80. Donc Jonathan Confra disait il y a 15 jours combien pour lui Stuart Hall s'était quelque peu servi ou avait vraiment observé la manière dont ces artistes passaient donc d'une esthétique à l'autre, de l'esthétique de la représentation à une esthétique beaucoup plus fictionnelle, beaucoup plus expressionniste, et en ce sens traduisait une rupture ou un passage d'un moment à l'autre de la Grande-Bretagne. La deuxième influence très forte de Stuart Hall concerne son implication dans les récits de l'art, donc dans le moment de l'historicisation du black art. Il faut savoir que le black art, le British black art, est très peu rentré dans l'histoire de l'art britannique, principalement pour des racismes institutionnels. Bon, ça a été beaucoup travaillé par Rashid Areen ou Richard Hilton, et puis pour des raisons de rejet, parce que ces œuvres étaient perçues comme une forme de contestation. Et finalement, très peu de textes d'une critique de l'art général ont été produits sur ce mouvement. Or, Stuart Hall, figure tutélaire, représentant fort de l'héritage critique du mouvement, va proposer dans les années 2000 une lecture sociologique du mouvement, tout d'abord dans un colloque à Duke University, et avec ce texte qui s'appelle « The Deluge and After ». Et puis, donc cette version va être augmentée, présentée un peu plus tard en Grande-Bretagne, sous le titre « Black Diaspora Artists in Britain, Three Moments in Postwar History ». Et c'est le texte qui a été traduit et publié dans l'ouvrage de Maxime Servulle en 2013, « Identité et culture 2 ». Donc ce papier, donc je me réfère au papier, au premier papier qui est publié dans Shade of Black, puisque c'est l'ouvrage majeur en fait sur les British Black Artists qu'on connaît aujourd'hui. Dans ce texte, il distingue donc des générations d'artistes black par des vagues migratoires. Donc, première génération, née en tant que sujets coloniaux dans leur pays d'origine avant la Deuxième Guerre mondiale, qui ensuite est venue en Grande-Bretagne en tant qu'artiste confirmé. Donc, on peut dire que cette lecture, déjà, n'identifie pas des pratiques artistiques, mais plutôt des origines migratoires et le statut associé à cela. Et c'est sur cette base qu'il va expliquer la relation que ces différentes générations vont entretenir avec le modernisme. Alors, si la première génération, donc je suis son raisonnement, si la première génération souhaitait, voulait égalité, universalisme, mu par le désir d'être traité en égal, il dit Londres était la Mecque d'une génération entière d'écrivains caribéens, intellectuels et d'artistes. La deuxième génération, celle dont je vous parle, les années 80, elle, cette génération, est éduquée en Grande-Bretagne, souvent née en Grande-Bretagne, et se déploie dans un contexte, dans une conjoncture très différente. Donc une expérience très différente. Et donc cette génération va revendiquer une rupture. Alors quel est ce contexte ? Bien, Stuart Hall parle notamment de la montée du racisme, évidemment, les révoltes de Notting Hill, la venue de Malcolm X, ou encore la création des campagnes contre les discriminations. Donc ce contexte-là, selon lui, situe les artistes en regard du modernisme, cette deuxième génération. Donc finalement, ces générations d'artistes, dont la génération des années 80, est ramenée à une affiliation aux vagues migratoires de la génération précédente et non pas située dans les affiliations au champ de l'art lui-même. Je souligne que c'est donc une histoire qui est lue à travers une histoire des sujets et non pas une histoire des objets, dans un climat qui est assez réfractaire à ces œuvres qui sont perçues comme activistes. Deuxième point que Stuart Hall aborde dans ce texte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'il appelle le déluge, c'est-à-dire le flot de théories critiques, l'arrivée du post-structuralisme, du French Theories, de la psychanalyse, du postmodernisme, mettant fin pour lui à la position du sujet noir essentialisé. Et c'est en cela que le cinéma, comme la photographie, constitue le terrain d'observation privilégié pour Stuart Hall de cette nouvelle position du sujet. Donc l'impact ou l'influence de ce texte est assez ambivalent, puisque d'une part il renforce complètement la visibilité, la cohérence, voire du récit du Black Art. C'est une figure d'autorité, évidemment. Mais cette lecture sociologique de l'art, ou généalogique hein, plutôt, de l'art, ne favorise pas, si vous voulez, l'inscription ou la lecture des œuvres au sein de l'histoire de l'art. Donc, quels sont les autres... je commence à basculer, vous voyez, sur les limites ou les tensions que peuvent générer les textes de Stuart Hall en regard du British Black Art. Deuxième point limite, ce serait lorsqu'on l'observe du point de vue des pratiques black féministes. Alors tout d'abord, Stuart Hall a écrit peu de textes sur les artistes femmes, sinon cités à l'occasion, mais il n'y a pas de texte majeur de Stuart Hall sur des artistes femmes. Alors si on se place du point de vue des film studies, il y avait une autre personne très importante qui a été évoquée, c'est Pratibha Parmar. Et il y a aussi Valérie Amos et donc ce texte, donc deux figures du CCS, qui écrivent ce texte « Challenging Imperial Feminism » en 1984. Ce qui est dit dans ce texte, c'est que « Many white feminist failures to acknowledge... » Pardon, je vais le mettre comme ça. Many white feminist failures to acknowledge the differences between themselves and black and third world women has contributed to the predominant Eurocentric and ethnocentric theories of women's oppression. Donc elle distingue l'expérience des femmes noires et les situe en regard du féminisme blanc, enfin je devrais dire féminisme black et féminisme du tiers, ce qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, et les situe aussi en regard du féminisme black américain, qui est encore différent, et elle en appelle à un féminisme black transnational. Petit point quand même, c'est qu'on peut constater que du point de vue des féministes, il y a une double rupture à cette période, puisque bon, déjà au sein du CCS, ça a été beaucoup abordé ces jours-ci, à partir de féministes qui publient Women Takes Issues, et puis donc je rappelle que Hazel Carby et Pratibha Parmar publient leur texte dans The Empire Writes Back en 82. Une autre rupture, une autre scission apparaît, c'est au sein du British Black Art lui-même. Puisque dès la First National Black Art Convention, donc dès 82, les artistes femmes se séparent ou se remettent dans une autre communauté puisqu'il y a un désaccord profond avec d'autres artistes. Pourquoi ? Puisque les artistes femmes souhaitent mettre en lumière, discuter d'une histoire de l'art patriarcale et également d'une histoire des formes. Par exemple, Lubaina Himid, une artiste black féministe, travaillera sur Hogarth ou Picasso, ce qui est très mal vu depuis d'autres points de vue masculins de l'auditoire. On constate que finalement ces artistes femmes étaient prises en étau entre le champ des cultural studies, donc assez masculin, ou en tout cas quand il s'agissait de parler des œuvres d'art plastique, hein, on ne parle pas du cinéma, elles étaient beaucoup tournées vers l'étude des masculinités. Évidemment, il y a le travail de Cobina Mercer qui est énorme, mais qui concerne plutôt l'histoire des masculinités. Et puis coincé aussi entre un féminisme blanc, assez indifférent au sort des black women artistes, et aussi prise en étau également par une histoire de l'art féministe, avec donc les disputes entre, les tensions, les négociations entre Linda Nochlin et Griselda Pollock, Griselda Pollock étant en Grande-Bretagne et Linda Nochlin aux États-Unis, mais les textes circulant très bien, oui, circulant très bien dans les revues Block ou Screen. Alors un exemple peut-être un peu précis et puis je vais conclure. Sheila Kumari Burman, une black artiste, publie un manifeste en 87 dans lequel elle déploie une analyse précise des contraintes matérielles dans lesquelles les femmes artistes sont prises, et on sent l'héritage d'un féminisme matérialiste. Donc elle dit par exemple: Black women now realize that because of the specific ways in which we are oppressed by what male dominated society, we must present a new challenge to imperialism, racism and sexism from inside and outside the established black liberation movement. Donc il y a la présentation, ça apparaît pas ici, mais la présentation des conditions matérielles qui rendent difficile la production pour les artistes femmes, mais il y a aussi une distinction par rapport aux artistes hommes. Sachant que Sheila Kumari Burman, dans sa pratique, va de l'activisme, donc elle se situe entre l'activisme, par exemple elle participe au Leeds Asian Women's Refuge dans les années 70, elle va avoir les concerts de Rock Against Racism, et puis elle lit des féministes américaines black comme Alice Walker. Le papier s'intitule « They have always been great black women artists » en réponse au très fameux texte de Linda Nochlin. Donc elle renvoie à Linda Nochlin l'absence de représentation des artistes femmes noires et asiatiques au sein de l'histoire de l'art. White women's failure to inform themselves of the obstacles faced by black artists, and in particular black women artists, has led to the production of an extremely Eurocentric theories and practice of women's art. Enfin, Sheila Kumari Burman, dans sa pratique, renvoie à l'histoire de l'art. Elle renvoie, par exemple, à Yves Klein, et donc au pop art, au nouveau réaliste. Elle, donc je fais défiler plusieurs travaux, elle s'inscrit dans l'histoire de l'art. Elle veut aussi travailler depuis ce lieu d'énonciation. Et elle est proche en cela des travaux de la New Art History, qui sont l'héritage critique du point de vue de l'histoire de l'art, de la pensée des cultural studies et du féminisme. Elle lit par exemple John Berger, et elle va lire Block, qui est le lieu d'accueil de cette pensée. Donc nous avons une artiste qui travaille ses gestes plastiques au sein d'une histoire des représentations du corps, du point de vue de l'histoire de l'art féministe, en négociant les tensions entre enjeux critiques des cultures politiques de la New Left, des cultural studies, du féminisme et du féminisme au sein de l'histoire de l'art. Donc on retourne un petit peu ici l'argument tout à l'heure de Stuart Hall en expliquant les œuvres non pas par l'héritage migratoire de l'artiste, non pas par le trajet migratoire de l'artiste, mais par des positions d'artistes occupées justement par ces tensions entre théorie critique et histoire de l'art féministe matérialiste occidental. Donc pour conclure, si on revient à cette vue générale sur les relations entre cultural studies et Black Art, ou Stuart Hall et le Black Art Movement, nous obtenons un dessin assez ambivalent, puisque Stuart Hall a agi comme une figure très emblématique, symbolique, politique, qui aide à situer le mouvement. Son analyse du Black Art est véritablement liée à sa lecture de Gramsci. Et donc, il va amener à une pensée sur l'esthétique du cut and mix, qui sera repris plus tard par Cobbina Mercer. Donc, maintenant, sa lecture du Black Art est quelque peu discutable du point de vue de l'histoire de l'art, puisque justement, il n'a pas accompagné ou permis ou favorisé l'entrée de ses œuvres au sein de l'histoire de l'art, depuis lesquelles ses œuvres avaient quelque chose à dire sur justement les enjeux de pouvoir, d'hégémonie. De relations entre race, class, gender propres au champ spécifique de l'art. Voilà, donc du point de vue des artistes femmes, ces échanges, ces négociations entre activisme, féminisme et histoire de l'art n'ont eu que finalement très peu d'espace. Voilà, je vous remercie.
Je me suis mise à l'ombre, j'avais chaud. Alors, donc j'appuie là, c'est ça ?
Je peux appuyer ça.
Ah, ok. Bon, vous êtes toujours là. Dans le noir, je ne vous vois pas. Merci à Maxime pour cette invitation. Je vais vous donner une présentation un peu plus légère, un peu moins historique, en fait, il faut le dire. Je vais essayer de tracer les passerelles entre mode et culture en passant par l'économie, donc les liens entre mode et culture visuelle. Mais aussi, je vais faire référence au livre « Mode et Cultural Studies ». Pour vous donner un aperçu un peu des liens historiques entre les deux. Et je vais peut-être essayer de traduire de temps en temps. Je ne sais pas s'il reste des Anglais dans la salle. Is there any English people still here in the... Oh, there are, right, okay. I'll try and translate as I go, bits, so you sort of have an idea of what I'm saying. Alors, je vais commencer avec le Brexit. Mis à part les conséquences immédiates du référendum, le Brexit risque d'éloigner le Royaume-Uni également d'un marché très important qui est la mode, le marché de la mode européenne. Le Royaume-Uni est en effet le second marché européen pour l'industrie de la mode derrière l'Allemagne. Certains voient le Brexit comme une catastrophe pour Londres, en particulier en tant que capitale de la mode. Frances Corner, la directrice du London College of Fashion, a constaté que, en anglais, elle dit « At a time when London's affordability is already putting tremendous pressure on our creative sector, we need to be opening up to opportunity, not closing it down. » Donc au moment où l'accessibilité à la ville, le fait que Londres, le fait que ça coûte tellement cher de vivre à Londres, et ça met une pression énorme sur les classes créatives, sur les industries créatives telles que la mode, on a besoin de s'ouvrir et pas de s'enfermer. En effet, comme vous savez, Londres fait partie des Big Four, comme on dit, une des quatre capitales globales de la mode. Au-delà du riche patrimoine stylistique national, on voit souvent la ville comme un berceau de la créativité, historiquement. Et c'est là où on voit le lien avec les études culturelles, en particulier avec l'infrastructure pédagogique. Et là, je pense aux écoles de mode et la richesse des formations publiques, qui sont des atouts en fait pour l'industrie de la mode, mais qui ont historiquement qui passaient ou qui étaient un vecteur pour les études culturelles au Royaume-Uni. Il me semble que la tradition particulière des art schools, comme on dit en anglais, cette spécificité locale, est donc primordiale lorsqu'on commence à réfléchir à la question des liens entre mode et design et cultural studies. Les fameuses écoles de mode, Central St. Martin's, London College of Fashion, Royal College of Art, sont régulièrement citées en tête des classements internationaux. Et ces traditions de formation est bien entendu maintenant menacée par la privatisation massive de l'enseignement supérieur. Quoi qu'on pense de la position de Londres comme plateforme financière et l'électorat pro-Brexit, c'est bien trompé de cible en visant l'Europe. C'est Londres, en fait, le problème. La ville reste au cœur de l'industrie de la mode dans tous ses secteurs. Création, confection, communication, marketing et les industries connexes telles que l'image et les médias. Par exemple, dans un rapport de 2014, le British Fashion Council, Oxford Economics, ont identifié 5 piliers pour améliorer la compétitivité de l'industrie de la mode au Royaume-Uni, dont l'un était l'un des plus importants de ces pôles, était innovation et numérique, donc l'image en gros, innovation and digital, qui comprend une large gamme d'activités comme l'image, notamment le développement du fashion film, qui est un peu le sujet de mon livre, et qui contribue à la réussite des marques de mode. La place de la communication audiovisuelle dans les stratégies de marques de mode est bien entendu centrale, mais on se pose la question, on se demande pourquoi. Tout simplement parce que les médias culture contemporaine fonctionnent, comme vous le savez bien, de manière transversale, de manière horizontale. Et la mode nous offre une bonne illustration, à mon avis, de la porosité de la culture visuelle. Cette idée de « spreadable media », selon les termes de Henry Jenkins et bien d'autres. Pour le dire vite, on ne peut plus penser mode, image, publicité, film, communication, culture de manière dissociée. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit toujours historiquement dans les cultural studies et que les acteurs de l'industrie de la mode savent déjà, mais qui n'est pas reflété au sein de l'université avec l'obsession disciplinaire traditionnelle. Donc là, on voit un peu l'apport des cultural studies sur la façon d'imaginer l'industrie de la mode. Mais pourquoi penser la mode en lien avec la culture visuelle en particulier? Et ça, c'est là, je réponds à la question de cette table ronde. La mode est aujourd'hui un spectacle médiatique autant qu'une industrie créative. Quand on dit mode, on pense au processus culturel autant que le travail sur la matière, le circuit élaboré à travers la fabrication, la distribution, la communication, la consommation. La mode, c'est évidemment tout ça en même temps, à la fois l'économique et le culturel. Et puis penser la mode en lien avec l'image est important tout simplement parce qu'elle constitue toutes les deux des forces culturelles et économiques majeures. Mais c'est bien sûr le sémiologue français Roland Barthes dont les écrits ont été très influents et très importants pour Stuart Hall et bien d'autres. C'est Barthes qui nous a appris que les vêtements acquièrent un sens grâce au fait qu'ils s'inscrivent dans un système, le fashion system, le fameux système de mode. Mais ce système a été radicalement bouleversé par deux choses, la globalisation, bien sûr, et le numérique depuis le début du siècle. Et d'un point de vue des cultural studies, et plus précisément la formation britannique de cultural materialism, qui a toujours tenté de relier l'économie à la culture, la mode n'est pas seulement force de production, pas seulement une industrie, elle est aussi une vision technologique, un mécanisme pour la représentation d'identité individuelle et collective. Et cela explique, à mon sens, pourquoi les fashion studies, ou cette formation des fashion studies qui émerge, qui sort en fait de cultural studies, pourquoi les fashion studies sont nées dans le monde anglophone et non pas dans le monde francophone. Car cette méthode, cette façon d'aborder la mode vient justement des approches cultural studies. Alors que je disais, en effet, aujourd'hui, la mode est donc autant industrie médiatique que créative, et on ne peut plus penser la création de mode en dehors du visuel, en dehors de la culture visuelle, et plus largement en dehors du marketing, bien sûr. Le champ de la communication visuelle de la mode continue à se développer très rapidement. Par exemple, les sites marchands fusionnent de plus en plus avec la presse en ligne, où le lecteur joue un rôle de consommateur. Vous avez suivi le click and buy, enfin tous les débats dans l'industrie de la mode autour du fait qu'un consommateur peut acheter directement en cliquant sur les vidéos. Les marques de mode misent gros sur Instagram, bien sûr, qui contient maintenant des films de 15 secondes et diffusent leurs défilés en direct sur Periscope. Tout cela, en fait, crée une sorte de tout visuel de la mode. The idea of a spectacle, l'idée de spectacle en fait de la mode qui passe par le numérique. Il y a aussi le fait que les industries de la mode et du luxe font médias de nos jours et occupent la culture. Et je vais revenir à cette manipulation commerciale des arts visuels pour faire un lien avec la présentation précédente dans un instant. Mais l'autre grand changement qui a bouleversé la mode depuis au moins 15 ans, c'est la célébrité. Et il y a peu d'études sur la question de la célébrité. Je voulais vous montrer ce livre-là pour ceux qui travaillent, pour ceux qui s'intéressent à les liens entre mode et culture de la célébrité. L'interdépendance des deux, en fait, c'est un livre de Pamela Church Gibson. Dans ce contexte, je pense à la nouvelle génération de mannequins, personnalités qui viennent des médias sociaux, Kendall Jenner, Gigi Hadid, et les liens entre la création et la culture pop chez Olivier Rousteing, chez Balmain, par exemple. Mais un autre, si je reviens là, un autre exemple serait bien sûr, un autre exemple médiatique serait l'impact de la Met Gala à New York, l'événement soi-disant philanthrope qui est organisé par Anna Wintour et Vogue, qui est un peu en quelque sorte les Oscars de la côte Est en termes de couverture médiatique. En mai dernier, le British Fashion Council, pour revenir à l'Angleterre, a annoncé la première Met Gala à l'anglaise, je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais qui aura lieu à Londres l'an prochain pour faire justement la promotion de la ville en tant que capitale de la mode. Et cet événement sera ouvert à un public payant. Donc, c'est à la fois démocratique, c'est ouvert au public, mais bon, il faut payer quand même. C'est toujours ça la question centrale. Cela a pour objectif de renforcer la réputation de la ville, qui a été couronnée première capitale de la mode en 2011 par Global Language Monitor, qui trace un peu l'influence des villes de mode sur Internet. Et je vous rassure que Paris... Paris a repris la couronne de capitale de la mode internationale. Mais pour revenir à la conjoncture actuelle, même si le Brexit paraît bien évidemment grave d'un point de vue politique, économique, social, et risque d'isoler et fragmenter le Royaume-Uni et l'Europe davantage, le rayonnement culturel et l'influence stylistique du pays persistent. So here I'm talking about the impact, the sort of stylistic impact of the UK culturally as it's channeled through fashion. Par exemple, là je vous donne des exemples de presse de la semaine dernière, une certaine anglomania, qui est opportuniste bien sûr, était visible lors des défilés de mode masculine la semaine dernière à Paris, où il y avait beaucoup de sources d'inspiration anglaise. Et donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, que la raison d'être de la mode, après tout, c'est de faire commerce avec l'actualité, to trade in the present. Cet attachement stylistique à la culture anglaise et écossaise, il faut bien le dire, est assez courant. Il y a 3 semaines, Dior et Gucci avaient organisé leur défilé croisière en Angleterre, Blenheim Palace à Oxford, mais aussi à l'abbaye de Westminster à Londres. Et pour son défilé homme, le créateur avant-gardiste belge Walter von Behrendonck s'est inspiré du roman classique de Lewis Carroll, Alice in Wonderland, faisant défiler des hommes aux vêtements couverts de rubans multicolores qui faisaient penser aux danseurs traditionnels, donc les Morris dancers. Ce retour à la culture traditionnelle anglo-saxonne, donc c'est une espèce de retour à la culture folk, remplace les citations attendues à la culture pop. Parce que quand on pense à la mode anglaise ou la mode britannique, on pense toujours à la culture pop. C'est intéressant d'un point de vue de cultural studies, car c'est bien la blanchité affichée de ces références qui est sans doute la chose la plus problématique d'un point de vue identitaire. Surtout vu le contexte du référendum la semaine dernière et la montée de la xénophobie, les débats autour de l'immigration. Un autre exemple, c'était Dries Van Noten, qui parmi les créateurs de mode masculine les plus influents, qui a pris le manoir de William Morris, l'initiateur du mouvement Arts and Crafts, art et artisanat, du 19e siècle comme point de départ. Ce genre de transfert culturel et stylistique, qui est un retour assez surprenant quand même aux inspirations traditionnelles de la culture anglaise, est intéressant vu la dominance historique des styles urbains, sous-culturels, dans l'articulation de la relation entre mode et culture. Et là, je pense notamment ou livre de, bien sûr de Dick Hebdige, Subcultures, et cette tradition qu'il y a au sein des études des cultural studies anglophones de prendre les sous-cultures comme objet d'étude. Et par subculture, je veux dire les styles majoritairement masculins venant des sous-cultures musicales ou politiquement contestataires des années, des années 70 et 80, bien sûr. Mais c'est l'impact énorme sur la mode des styles rock, mode, hippie, punk, dans le contexte du livre de Hebdige, bien sûr. Mais aussi après punk, post-punk, new wave, clubbing, hip-hop, hipster, les effets de ce qu'on appelle en anglais le bubble-up effect, l'influence de la rue sur la culture de mode. Dans le contexte, et là je veux juste juste parler de manière plus historique, dans le contexte de la critique marxiste, ce livre de Hebdige fut le premier à décrypter les looks mode punk, en pensant au processus de réappropriation des vêtements ou des styles par des publics oppositionnels. Donc là, on pense au style vestimentaire punk, les t-shirts déchirés, les vêtements détournés par Vivienne Westwood ou Jean-Paul Gaultier, bien sûr, en France. Cette démarche qui visait à contester la norme de masculinité bourgeoise, qui est le costume cravate, enfin le costume traditionnel. Au fond, nous dit Hebdige dans son livre, les sous-cultures, les subcultures visibles ou spectaculaires sont historiquement des cultures de consommation. Donc il fait ce lien entre consommation et subculture et cultural studies. Elles affichaient, les sous-cultures, leurs différences, et c'est en partie à travers les styles visuels et les marchandises de mode que les sous-cultures ont toujours joué avec l'identité. Alors, vu du 21e siècle, ce type d'écrit, surtout le livre de Hebdige des années 70, paraît très ancré dans une époque historique. C'est très daté, en quelque sorte. Et on pourrait même dire que ces notions de subculture contestataire ou l'appartenance politique qui s'exprime par le style vestimentaire, tout ça n'a peut-être, enfin, ça a moins de résonance qu'à l'époque. Et la situation politique ou sociopolitique est beaucoup, beaucoup moins claire là-dessus, en tout cas. C'est l'anthropologue Ted Polhemus qui dit que les consommateurs qui nous sommes habitent un supermarket of style, donc l'idée de supermarché du style, où il y a peu de signification politique ou choix vestimentaire en dehors des discours consuméristes. Et on pourrait constater la même chose si on pense au débat féministe, et là je pense au livre à droite, les débats féministes des années 70-80 qui étaient pour ou contre la mode d'un point de vue politique ou moral. Donc une certaine résistance en fait à la mode au sein des milieux progressistes, et c'est quelque chose que Elizabeth Wilson a toujours démonté dans le livre qui est peut-être le livre fondateur des Fashion Studies, A Dawned in Dreams de 1985, et elle met en question cette résistance féministe envers les cultures de mode. Alors actuellement ce sont des questions de mode et race en fait qui ont pris le relais identitaire, en tout cas dans les fashion studies. Et là, je vous montre deux couvertures plus récentes. Je pense au travail de Rena Lewis à gauche, Muslim Fashion, Contemporary Style Cultures, qui a été publié par Duke University Press l'année dernière, mais aussi le livre de Carol Tulloch que je vous recommande vivement. It's a really excellent book on the right that came out at the beginning of this year. That looks at questions of race and racialization in the context of fashion, and these ideas around ethnicity and race and the links between fashion have certainly replaced the earlier focus on feminism, on gender, and the earlier focus particularly on male subcultures. Et donc son livre, le livre de Carol Tulloch, trace l'impact des styles noirs sur l'histoire de la mode, mais de manière transnationale. Et c'est ce focus sur cet accent qu'elle met sur la diaspora noire que je trouve intéressant. Avec l'écologie, donc sustainable fashion, ce sont peut-être les principales préoccupations de la recherche en culture de mode aujourd'hui, en tout cas dans le contexte identitaire. Alors, juste pour avancer un peu plus vite, dans le contexte plus précis de culture visuelle, il y a, à mon sens, trois éléments reliés à prendre en compte pour comprendre la conjoncture actuelle. Ce sont les liens entre célébrité, finance, financiarisation et art visuel. Et là, je voulais faire juste un lien avec les arts visuels. La nouvelle célébrité arrive, bien sûr, historiquement avec la financiarisation. Les processus de finance de l'industrie de la mode et par le luxe à partir des années 90. Et un bouleversement total de la manière de concevoir la création, la consommation et l'image de mode. Au sein de l'université, et surtout en cultural studies, il est rare de nos jours de voir les excès de ces développements, particulièrement la célébrité. Les universitaires critiquent très rarement les excès de la célébrité, par peur de paraître puritain ou dépassé, ou de reproduire la posture de l'école de Francfort sur la culture populaire. Mais comme le constate Pamela Church Gibson dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, on ne peut plus penser ou parler de mode sans évoquer la célébrité, ou ce qu'elle appelle après Warhol « the art-celebrity-fashion nexus », un peu la situation contemporaine, qui relie l'art, les arts visuels, la célébrité, finance, luxe et mode. Et là, il y a d'autres exemples. Là, je vous montre les marques qui occupent la culture, qui font médias. Là, vous avez les images de l'exposition de l'année dernière, Mademoiselle Privée à la Saatchi Gallery à Londres. Donc le but était la mise en culture de l'image, l'identité et le patrimoine de la marque Chanel par le vecteur du musée. Ou bien le cas de Louis Vuitton, juste pour terminer, qui est peut-être le plus emblématique quand on pense à ces relations entre finance, art, visuel et luxe. Louis Vuitton est bien sûr la marque française la plus puissante. Selon le cabinet nord-américain Interbrand, après Apple, Coca-Cola, Google, les trois premiers du ranking, Louis Vuitton est la 17e marque la plus connue dans le monde en 2013. Et sous l'ancien directeur, l'ancien créateur de mode, Marc Jacobs, qui a transformé ce qui était une vieille marque de luxe, après tout, en marque de mode, il y avait un certain nombre de collaborations artistiques entre les artistes, entre le créateur et les artistes tels que Takashi Murakami. Et là, vous voyez des images d'une exposition à Los Angeles en 2007, où la marque a installé une boutique éphémère dans le musée, dans lequel on pouvait acheter les sacs en série limitée. Donc là, on voit au fond que les liens entre œuvres d'art et produits de consommation ont disparu. Une démarche qui, bien sûr, d'un point de vue cultural studies, qui est discutable, plus que discutable, et problématique. Pour terminer, alors deux mots pour conclure en fait tout ça, pour to pull the strands together. Comme dans le cas de la célébrité, l'impact des cultural studies ou les approches méthodologiques des cultural studies sur la mode a été conséquent. Les fashion studies émergent des cultural studies. Non seulement la manière d'envisager et de critiquer les questions de représentation et d'identité en lien avec l'image de mode, et là la question de la race est centrale à la question, mais aussi de dénouer les liens complexes entre économie, art et culture, ce que j'essayais de faire très brièvement avec ces exemples de marques de luxe, mais aussi d'envisager des formes de contestation qui est vraiment le fond de commerce des cultural studies d'un point de vue historique. La question de la production, en termes de mode, est devenue plus en plus centrale aux fashion studies. Et on pourrait même dire que la question de la production est devenue un nouveau souffle en fait, pour la critique marxiste en relation avec l'industrie de la mode, mais aussi pour les approches critiques de la consommation de mode, qui évidemment viennent d'une tradition cultural studies à l'anglaise. Voilà, je vais terminer là, parce que c'est... Il était temps de finir. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Alors, on a maximum un petit quart d'heure d'échange. Ah. On a un petit peu débordé. On peut poser deux questions ? Ok.
Deux questions.
Alors, j'en vois une là-bas.
I realize I forgot to translate most of that, but I was going quite hurriedly, sorry.
Deux questions courtes et des réponses courtes.
Bonsoir. J'aurais une question pour Sophie Orlando. Quand on pense, sans connaître trop le cinéma, au cinéma britannique, je pense souvent à Steve McQueen. Et du coup, je me demandais quelle était sa position par rapport à cette tradition cinématographique. Je sais qu'il a commencé comme vidéaste, et du coup, est-ce qu'il est dans un prolongement ou en rupture avec ce travail, et comment il est perçu par l'art black, en fait?
Oui. Voilà. Oui, c'est une question importante, parce qu'il y a toute une série d'artistes. Alors moi, je suis moins spécialiste du cinéma que des arts, ce qu'on dirait en français plastique, ou en anglais fine art, mais il y a toute une série d'artistes dont fait partie Steve McQueen, et bizarrement, à la limite, Isaac Julian, par endroit, alors qu'il était complètement pris dans les débuts du black art, dans le collectif Sankofa. Mais Steve McQueen, comme Mona Hatoum, ont été des artistes qui se sont formés, ont eu des amitiés, ont été complètement proches, en fait, d'autres black artistes, mais qui, à un moment, n'ont plus revendiqué une appartenance à cette période. L'histoire. Et surtout Mona Hatoum, qui est exposée ici il n'y a pas longtemps, j'en parle aussi pour cette raison, puisqu'elle est aussi à la Tate en ce moment. Très clairement, il y a un moment où en fait, elle a plutôt intérêt, si elle veut une carrière internationale, à ne plus revendiquer cette position. Donc elle arrête de parler de ça. Et aujourd'hui, évidemment, ces questions se reposent, puisque maintenant, beaucoup d'artistes du black art reviennent sur le devant de la scène, commencent à être revus, montrés, discutés, institutionnalisés. Donc là, bon, on va réouvrir toutes ces questions-là.
Il me semble que Steve McQueen n'a rien à voir, en fait, avec cette tradition-là, je crois, non ? Il ne vient pas de la même tradition intellectuelle, en fait, que les artistes tels qu'Isaac Julian, où on voit... c'est quelqu'un qui a été nourri en fait des études culturelles anglaises, ouais, de manière critique, il me semble.
Oui, mais ils avaient des amitiés, des liens. Il y a d'autres types de rapprochements. Après, si on se passe du point de vue des cultural studies, je suis d'accord. Mais clairement, il y avait beaucoup d'artistes vivaient ensemble dans des squats pour pouvoir produire, en fait, notamment des photographes, David Ebele. Qui vivaient, enfin, ils vivaient souvent dans les mêmes rues, et donc il y a eu des discussions, des débats. Mais encore une fois, hein, les artistes du black art ne sont pas seulement liés aux cultural studies, hein, mais viennent puiser dans une série de références, parfois donc, complètement féministes. Enfin, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit, mais ce lien a été très accentué à un moment aussi pour donner de la visibilité aux black artistes.
Dernière question.
Une question courte pour Nick. J'ai demandé aux étudiants du Master Mode et Communication de faire des exposés. Je leur ai fait lire Dick Hebditch, qui a été traduit en français dans les années 2000, parce qu'on fait tout 30 ans après vous. Et je leur ai demandé de faire des exposés sur les subcultures contestataires actuelles et leur dimension stylistique. Et en fait, ils ont... pas trouvé de subculture contestataire qui ne soit pas déjà
récupérée par...
Oui, voilà.
Ouais, ouais.
Donc, est-ce que ça existe encore ou pas ?
Non, je ne crois pas, en fait, parce que la situation est tellement... c'est plus complexe, en fait. Il me semble qu'il y a bien sûr des cultures politiques contestataires, mais le lien entre style ou mode et contestation n'est... paraît flou, en fait, tout simplement. Non je serais plutôt d'accord avec tes étudiants, en fait. Ouais.
Ceci dit, on peut quand même parler d'une esthétique de la contestation.
Oui.
Je pense, le coup, aux travaux de Maxime Boidy sur le Black Bloc, et sur, pour le coup, le type d'esthétique et le type de construction de la visibilité, de l'invisibilité qu'élabore le Black Bloc. Alors c'est sûr que c'est très différent des types de subcultures, pour le coup très,
70,
très organisé, très identifiable, effectivement, précisément des années 70. Ouais. C'est une piste.
Non, c'est...
Du coup, peut-être pour réagir, est-ce que l'influence n'est pas du côté de l'ère du numérique,
Bah, c'est ça, la rue, en fait, Instagram, qui a remplacé street. Instagram is the street, en fait. Mais c'est un peu ça, ouais. Non, je suis d'accord.
Malheureusement, on doit clore le débat puisqu'on a vraiment dépassé le temps. Je remercie à nouveau l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui et de ces deux jours pour leurs interventions vraiment extrêmement généreuses. Thank you all for your very, very generous communications, and it was a pleasure having you here. Et puis merci aux courageux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, et on voit deux, trois qui sont restés pendant les deux jours avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Juste une dernière chose, si vous aviez des casques, merci de bien vouloir les rendre. Et puis, j'espère que la discussion qu'on a engagée se poursuivra évidemment ailleurs, dans d'autres espaces.
On va peut-être remercier Maxime d'avoir organisé le...
Oui, le Maxime et puis toute l'équipe d'organisation, Maxime Godis, Christophe Magis, David Mark Buxton, Kaiser,
Mark Kaiser et Isabelle Bastien-Duplex. Merci.
Et je voulais remercier aussi les régisseurs, donc Renaud, Arnaud, Pierre et Thomas pour le travail.